بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنستمر في قراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث 26. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، يعني سألوه المال فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، يعني زال ما عنده. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. الدخر يعني أبقيه عندي، لن أدخره عنكم، يعني لا أمنعه إياكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. دونك لو حديث d'aujourd'hui, le حديث numéro 26, où Saïd ibn Abu Saïd al-Khudri, qui s'appelle Saïd ibn Sinan, radiallahu anhu, raconte que des gens parmi les Ansar, radiallahu anhum, sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé, c'est-à-dire lui ont demandé de l'argent. Et il leur a donné de l'argent ou des biens. Ensuite, ils lui ont redemandé et il a redonné encore, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien auprès de lui. Et après, il leur a dit, une fois qu'il avait dépensé tout ce qu'il avait, il leur a dit: ce que j'ai de bien auprès de moi, je ne vous en priverai pas. C'est-à-dire, la addakhiruhu, c'est-à-dire, je ne vais pas l'économiser, entre guillemets, je ne vais pas le mettre de côté. Je ne vais pas vous l'interdire. Mais celui qui se contente, Allah lui donne le contentement. Et celui qui se passe de ce qu'il y a chez les autres, Allah yurnihillah, Allah l'enrichit. Pourquoi j'ai traduit comme ça? Qui se passe? Parce que le rina, souvent on traduit le ghani par le riche, mais en arabe le ghani c'est plus que riche. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a assez pour ne pas demander aux autres. Il n'y a pas besoin de demander aux autres, c'est le contraire de le faqir. Al faqir yaftaqir ila ghayrihi, c'est pour ça qu'on l'appelle faqir, parce qu'il n'y a pas assez, il y a besoin de demander. Le contraire c'est le ghani, il n'a pas besoin. Donc c'est pour ça. Et donc il a dit: man yastarni yurnihillah, celui qui se contente, ça veut dire il cherche pas ce qu'il y a dans les mains des autres, ben Allah il le rend ghani. Ghani dans le sens, il n'aura pas besoin des autres. Donc celui qui cherche pas ce qu'il y a chez les autres, Allah il fera en sorte que il n'a pas besoin de ce qu'il y a chez les autres. Et celui qui se force à patienter, yatasabbar, yani yu'awidu nafsahu aw yudarribu nafsahu 'ala as-sabr, yatasabbar yusabbiruhu Allah, yani yaj'aluhu sabiran. Et celui qui se force à patienter, Allah il le rend patient. Et personne n'a reçu un don meilleur et plus large que la patience. Muttafaqun alayh, donc c'est dans les deux sahih. Fanaqra inshallah min ta'liqat al-Sheikh Sa'id ibn Eid, Salim ibn Eid al-Hilali, hafizahullah. Yani hadha yakun ashal alayya ana an aqra shuruh al-Sheikh thumma utarjim. Fa yaqul al-Sheikh hafizahullah: fiqh al-hadith كرم النبي صلى الله عليه وسلم وما جبل عليه من مكارم الأخلاق. يعني نأخذ من هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أكرم الناس وأجود الناس كما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظروا هنا كيف أعطى حَتَّى لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٍ. Donc on va lire un peu les explications du Cheikh Salim al-Hilali Hafidhahullah, parce que pour moi c'est plus facile d'avoir des explications à lire sous les yeux et après je les traduis que de dire comme ça. Donc première chose, c'est la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez ici, le prophète il a donné jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Donc ça faisait partie de ses akhlaq, ses comportements. ثم ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس هذا كما قلنا يعني الغنى الحقيقية في غنى النفس يعني في القناعة ليس في كثرة الأموال. Ensuite il dit le vrai riche c'est pas celui qui a beaucoup de biens, mais la richesse, la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme, c'est-à-dire le contentement, savoir se contenter. C'est pas le fait d'avoir beaucoup de choses, parce qu'une personne elle peut avoir beaucoup de choses et elle en veut encore, alors que celui qui a et ça lui suffit, celui-là c'est vraiment le ghani, parce qu'il ne cherche pas plus. Donc le hadith aussi encourage les gens justement au contentement, c'est-à-dire de se contenter de ce qu'ils ont. تنال مكارم الأخلاق ومعالي الصفات بترغيب النفس وترويضها على ذلك وهذا يدل على مكارم الأخلاق وعلى أن مكارم الأخلاق تكتسب. يعني الأخلاق قسمان، منها أخلاق يعني الإنسان يخلق عليها، ومن أخلاق يرزقها الله عز وجل لهذا الإنسان بالتدريب وبرياضة النفس. يعني الإنسان يتعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث إنما الحلم بالتحلم، يعني الإنسان الذي يتعود على الحلم إذا جاءته مناسبة أن يكون فيها حليما يكون حليما، يعني يدفع نفسه ويعود نفسه أن يكون حليما فالله سوف يرزقه الحلم وكأنها تكون جبلة له لهذا الإنسان. Donc il dit aussi les bons comportements, on peut les avoir avec l'entraînement, le fait de s'y habituer. Et ça montre que les bons comportements, on peut les acquérir. Parce que les bons comportements, ils sont de deux sortes. Il y a les bons comportements naturels, le djibilla, c'est-à-dire c'est Allah qui t'a créé comme ça. Et il y a les bons comportements que tu acquiers. Donc les bons comportements qu'Allah t'a donné naturellement, ceux-là, il faut les préserver pour ne pas les perdre. Et ce qu'Allah ne t'a pas donné, il faut les acquérir. Donc on peut les acquérir avec l'entraînement, les exercices de l'âme, entre guillemets. C'est-à-dire quand il devient une occasion d'être halim, eh ben que tu sois halim. Par exemple, clément. Parce que le prophète il dit, l'hilm, c'est-à-dire la clémence, ne s'acquiert qu'avec al-tahalloum, c'est-à-dire le fait de se forcer à être clément. Donc quand il devient une occasion d'être clément, tu dois te forcer à être clément. Et Allah, il fera que ça devienne ton comportement. Ça devienne comme ta nature. Ça d'où il l'a pris, notamment il l'a pris quand il dit « Celui qui se contente, Allah lui donne le contentement. Celui qui se passe des autres, Allah le rend riche. Et celui qui se force à patienter, Allah le rend patient. » Donc c'est ça, c'est de cette phrase-là qu'il a tiré cette faïda. « جواز إعطاء السائل مرتين » يعني هذا واضح في الحديث أن الإنسان إذا جاءك مرتين تعطيه ولو مرتين يجوز. جواز الاعتذار إلى السائل يعني يجوز لك أن تعتذر إلى السائل. وجواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتي الله بالفرج. Donc ensuite il a retiré aussi du hadith le fait que tu peux donner plusieurs fois à la même personne qui va te donner, puisque là ils sont venus deux fois demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le fait que tu peux t'excuser à quelqu'un qui te demande. C'est-à-dire, si tu n'as rien, tu peux lui expliquer que tu n'as rien ou tu n'as pas assez pour lui donner. Et aussi, on retire du hadith qu'on a le droit de demander si on a besoin. C'est-à-dire, le fait de mendier, entre guillemets, de demander, on a le droit de le faire, lil haja, si on a besoin. Et encore le mieux, c'est de patienter et de ne pas le faire. Mais pourquoi il dit yajouz? Parce que là, l'ansar, ils sont venus, ils ont demandé. Si c'était haram, il leur aurait dit, sallallahu alayhi wa sallam. S'il leur a pas dit, c'est qu'ils ont le droit. Mais il leur a montré c'est quoi le mieux à faire. C'est l'istihfaf, c'est de ne pas le faire. Et tout ça, bien sûr, on parle de quand il y a le haja, quand il y a le besoin. Quand il n'y a pas le besoin, bien sûr, on n'en parle même pas. Que la personne, elle ne doit pas demander aux autres.
وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Donc le hadith suivant d'Abu Yahya Sohib ibn Sinan radiallahu anhu, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: la situation du croyant est étonnante, car toute sa situation c'est un bien. Et ça, ça n'est que pour le croyant, al-mu'min. Al-mu'min ici, on comprend al-mu'min kamilul iman. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, banu Adam maratib. Yani ahlul iman maratib. Minhum muslimun, walakin lam yablughu darajat al-iman al-haqiqi. Yani al-iman al-kamil. كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني كأنه قال سبحانه وتعالى المؤمنون حقا هم هؤلاء الذين لهم هذه الصفات. ليس معنى أن الإنسان الذي ليس له هذه الصفات ليس بمؤمن بمعنى هو كافر، بل يكون مسلما ولكن في إيمانه نقص، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل معنى أن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كافر لأنه غير مؤمن؟ لا، لأن المراد هنا بالمؤمن هو المؤمن بمعنى المؤمن الحقيقي أو المؤمن كامل الإيمان. يعني هناك عبارات مختلفة للعلماء في وصف هؤلاء المؤمنين، يقولون المؤمن كامل الإيمان أو المؤمن الحقيقي الذي بلغ الإيمان الحقيقي أو حلاوة الإيمان أو الإيمان الكامل. يعني هو الإنسان الذي يفعل كل ما أمر الله به من الواجبات ويجتنب كل ما نهى الله عنه من المحرمات، هذا هو المؤمن. فالمسلم لا يستفيد من هذا الذي في الحديث، إنما يستفيد منه المسلم الذي بلغ درجة الإيمان الحقيقي، لأن المسلم العادي الذي لم يزل مفرطا في بعض الواجبات أو يواطئ بعض المحرمات طبعا إيمانه يكون ناقصا، مما يجعله ربما لا يصبر أمام قضاء الله عز وجل. فيقول هنا donc il dit je disais la situation du croyant. Mais là, quand on traduit croyant, parce que c'est écrit mu'min, en fait, il faut traduire la personne qui a la foi. Parce que les gens de la foi, ils sont de trois sortes. Il y a le muslim, le mu'min et le muhsin. Donc le muslim, c'est celui qui est musulman, qui est né musulman ou qui est entré dans l'islam, et qui a suffisamment de foi pour que son islam il soit valide, il soit vraiment muslim devant Allah. Ça, c'est le muslim. Mais il peut avoir un manque dans des obligations ou faire des choses qui sont haram. Donc il reste muslim, mais il n'a pas atteint le degré qu'on appelle mu'min, c'est-à-dire celui qui fait vraiment tout ce qui est demandé et qui évite tout ce qui est haram. Donc lui, il a atteint un degré qu'on appelle l'iman ou le kamil, la foi complète. Et au-dessus, il y a le muhsin. Muhsin, c'est celui qui en rajoute. Il est mu'min et en plus, il fait des choses qui ne sont pas obligées. Ou alors, en plus, il s'écarte des choses qui ne sont pas haram. Juste, elles sont détestables ou bien douteuses. Il s'en écarte. Donc là, il atteint l'ihsan. Donc celui qui profite de ce qu'il y a dans ce hadith-là, c'est le mu'min. Celui qui a atteint un degré de foi. Donc il dit, la situation du mu'min, elle est étonnante. Car toute sa situation est un bien. Si, donc il dit, et personne n'est comme ça si ce n'est le croyant. Donc il dit, si un bien le touche, il remercie Allah, et donc c'est un bien pour lui. Et si un mal le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Donc ça c'est dans Sahih Muslim. فيقول الشيخ في فقه الحديث حياة المؤمن كلها خير وأجر له عند الله سواء أكان فيما يظهر له أنه شر أو خير. يعني كل ما يصيب الإنسان من خير أو من شر إن كان مؤمنا فكله خير له في الدنيا وفي الآخرة، لأن كل خير يصيبه يترتب عليه أجر لأنه سيشكر عليه، وكل مصيبة تصيبه خير له لأنها تترتب عليه أجور كثيرة لأنه سوف يصبر أمامها. Donc il dit la première chose qu'on retire du hadith, c'est que le croyant, toute sa vie, c'est du bien. Et c'est des récompenses pour, auprès d'Allah Azza wa Jal. Même si ce qui le touche, en apparence, c'est un bien ou c'est un mal. Ça veut dire le croyant, il n'est pas touché que par du bien. Il est touché par du bien et il a touché par du mal. Mais le bien comme le mal, tout ça, en fait, c'est du bien pour lui. Pourquoi ? Parce que comme il a dit, si c'est un bien, il va remercier Allah. Si c'est un mal, il va patienter. Donc tout ce qu'il va faire, il va en découler des récompenses auprès d'Allah. Donc finalement, tout est un bien.
المؤمن الذي كمل إيمانه وخلص يقينه يشكر الله في السراء ويصبر على الضراء فهو يتقلب في مقام الرضا ولذلك تنقلب النقمة في حقه نعمة والمحنة منحة بما فيها من أجر وثواب وحسن مآب.
Ensuite il dit le croyant dont la foi elle est complète. Donc là le cheikh il dit ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que ça c'est pour celui dont la foi elle est complète et qui a une certitude pure. Celui-là, quand il lui arrive quelque chose de bien, il remercie Allah. Et quand il y a quelque chose de mal, il patiente. Donc il est toujours dans maqam al-rida. C'est-à-dire, il fait toujours partie de ceux qui sont satisfaits du décret d'Allah Azza wa Jal. Donc tous les méfaits, pour lui, c'est des bienfaits. Et les épreuves, pour lui, c'est comme des cadeaux qu'Allah lui fait, en vérité.
الكافر يتضجر ويسخط في المصيبة فيجتمع عليه كفلان من الوزر عدم رضاه بقضاء مولاه وعدم الصبر عند حلول القدر.
Donc le mécréant, lui, c'est l'inverse. Comme il se met en colère quand il est touché par quelque chose, donc il porte deux péchés. Premièrement, le péché parce qu'il n'accepte pas le décret d'Allah et parce qu'il ne patiente pas. Donc il fait deux choses. Déjà, il n'accepte pas. Et la deuxième chose, ce qu'il pourrait accepter, mais il s'énerve quand même. Mais il reconnaît que ça, c'est le décret d'Allah. Donc, non seulement il ne reconnaît pas que c'est le décret d'Allah, il n'est pas d'accord, et en plus, il ne patiente pas, il s'énerve. Ça, on le voit tous les jours, dans la vie de tous les jours. Les non-musulmans, quand tu parles avec eux, la première chose qui sort de leur bouche, qu'est-ce que c'est ? Ah, t'as vu le temps aujourd'hui ? S'il pleut, ils ne sont pas contents parce qu'il pleut, et quand l'été va venir, ils vont dire, ah, il fait trop chaud aujourd'hui. Donc ils ne sont jamais contents, ils savent que se plaindre. Ils ne voient pas les ni'am, les bienfaits qu'Allah leur a donnés.
وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه وكرب أبتاه يعني هذا تعبير يعني كأنها تشتكي من ألم أبيها. يتغشاه الكرب يعني هو في سكرات الموت يتألم من سكرات الموت صلى الله عليه وسلم فقال ليس على أبيك كرب ليس على أبيك كرب بعد اليوم يعني كأنه يخبرها بأنه سوف يموت فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن أو دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري. يعني كأن النووي رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن مثل هذه التعبيرات لا تناقض الإيمان ولا تنافي الإيمان لأن فاطمة رضي الله عنها من أفضل النساء ومن أفضل الصحابيات وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يخرج من فمها ما يناقض أو ينافي الإيمان فكأنه قال مثل هذا الكلام اليسير لا ينافي الصبر والرضا.
Donc ici il a dit le hadith, c'est Anas رضي الله عنه qui raconte que quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a approché la mort, donc il était touché par la douleur. Et sa fille Fatima a dit donc une expression « Wa karba abata » c'est-à-dire c'est comme disait « Oh mon père qui souffre » c'est-à-dire elle se plaint entre guillemets que son père souffre. Et il lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a entendu dire, il a dit « Il n'y a pas de souffrance pour ton père après ce jour-ci » c'est-à-dire il lui dit en fait c'est comme s'il lui dit « Je vais mourir donc je ne vais plus souffrir » et quand il est mort elle a dit donc elle a dit une expression elle a dit « Oh mon père qui a répondu à son Dieu qui l'a appelé » c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, « Ô mon père, le paradis du Firdaus sera son refuge. Ô mon père, nous te plaignons à Jibril. C'est-à-dire, on, c'est comme si on se plaint, entre guillemets, ou on annonce à Jibril ta mort. Et lorsqu'il a été enterré, elle a dit, radiallahu anha, comment avez-vous pu, entre guillemets, comment avez-vous pu mettre la poussière ou la terre sur le corps du messager d'Allah? C'est-à-dire, elle s'est étonnée, quoi. Pourtant, il fallait le faire. Mais par douleur de la mort, elle dit ça aux sahaba. Comment vous avez pu enterrer le messager d'Allah? C'est pas un vrai reproche. C'est pas un reproche, puisqu'il fallait l'enterrer. Mais c'est comme si elle s'étonne. Donc, en fait, pourquoi Nawawi il a mis ça dans le chapitre de la patience? Parce que dans le hadith, en apparence, il n'y a pas d'allusion à la patience. C'est comme s'il voulait nous dire que ce genre de parole, d'expression, ça ne contredit pas la patience. Puisqu'on sait que l'islam, il interdit tout ce qui est niyaha, le fait de crier quand il y a un mort, le fait de se griffer, le fait d'arracher les vêtements, etc. Tout ça, ça fait partie de al-jahiliya, comme c'est cité dans un hadith. Et dans beaucoup de hadiths, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ce genre d'acte. Et pourtant, ici, on voit Fatima, elle a dit des petites expressions de douleur. Donc, c'est comme s'il disait, ce genre d'expressions, qui ne sont pas beaucoup, eh ben, ça ne contredit pas la foi, ça, et ça n'annule pas la foi, puisque c'est Fatima, radiallahu anha, elle-même qui l'a dit. Donc, c'est pour ça qu'il a mis ce hadith ici, ce hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Donc, c'est comme si une personne, par exemple, à notre époque maintenant, elle va voir son père souffrir, elle va pleurer, ou elle va dire j'ai mal au cœur, quelque chose comme ça, ça n'y a pas de mal. Ce genre de petites paroles. Là, une femme, elle va dire, par exemple, j'ai mal au cœur, j'ai perdu mon mari, c'est difficile. Ça, c'est pas, ça va pas contredire. Tant qu'elle n'exagère pas dans les pleurs, dans les cris, elle élève la voix, etc. Donc le cheikh dit, fiqhul hadith, donc ce que retire du hadith, al-anbiya'u ashaddu an-nas ibtila'an fi hayatihim wa 'inda mawtihim li raf'i darajatihim wa ziyadati ujurihim. Donc il dit, les prophètes, c'est les gens qui sont les plus éprouvés dans leur vie et au moment de mourir. Donc il dit, les prophètes, c'est les gens qui sont les plus éprouvés dans leur vie et auprès de leur mort, quand ils vont mourir. Ça pour qu'Allah élève leur degré et qu'il leur augmente leur récompense. Pourquoi il dit ça ici? Parce que toute chose qui atteint le croyant, c'est-à-dire, c'est quoi la hikmah qu'Allah Azza wa Jalla quand il touche quelqu'un par un mal, un croyant? C'est soit pour l'éprouver, comme ça il va patienter, et quand il va patienter, il va avoir des hasanats. Soit parce qu'il a des péchés, et il ne fait pas beaucoup l'istighfar, il ne demande pas beaucoup pardon à Allah. Donc Allah, plutôt que de lui faire un châtiment, fil akhira, dans l'au-delà, il lui fait une maladie ou une musiba, une catastrophe dans sa vie d'ici-bas. Ou alors la personne, elle fait l'istighfar, Allah il lui pardonne déjà, tellement elle a des bonnes actions, ses prières, ses sacs prières à la mosquée, etc. Mais pour l'élever encore plus et pour lui rajouter des récompenses, Allah il lui donne le musiba. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que parfois quelqu'un il peut lire le sira, par exemple, sira nabawiya, il dit comment le prophète, ça déjà, des jeunes, ils m'ont déjà posé la question. Ils m'ont dit comment le prophète il tombe malade. Ou alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, au djihad, il s'est fait casser sa dent. Il s'est fait couper. Ses enfants, ils sont morts bébés. Tous ses fils, ils sont morts alors qu'ils étaient bébés. Ses filles, elles sont mortes toutes pendant qu'il était vivant, sauf Fatima, radhiyallahu anha. Donc il y en a, ils ne comprennent pas que quelqu'un qui est pieux, Allah, il lui fait ça. Mais justement, ça c'est un ikram en vérité. Ça c'est comme un... C'est comme un honneur qu'Allah fait à ce prophète. De l'éprouver, ça augmente son rang. Et ça montre encore plus aux gens que c'est quelqu'un de sabir, pour montrer que c'est bel et bien un prophète. Et la personne, elle doit réfléchir que si ça c'est vrai pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est vrai pour nous. Si cet homme qui est Sayyid Waladi Adam, le meilleur des êtres humains, Allah il lui a fait ce genre de malheur, alors qu'est-ce qui va nous arriver à nous? C'est-à-dire, bien sûr que nous aussi, on peut subir des malheurs. Parce que combien de gens ils disent, par exemple, comme au bled, ils ont une expression, ils disent Foulen mayastahilch. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Foulen mayastahilch. Ça veut dire, un tel, il ne mérite pas. Par exemple, quelqu'un, il perd son enfant, il est malade, ils disent, mais ce qu'il ne mérite pas. Subhanallah al-Azim. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses filles, elles sont mortes, ses enfants, ils sont morts. Il est tombé malade, il s'est fait ensorceler, ses sahaba, ils se font tuer. Qu'est-ce que tu dis alors avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Si lui il a été touché, tu crois que toi Allah il va rien te faire, il va t'épargner. Ça c'est des épreuves. Ma yastahilch, subhanallah. C'est un wali pour que tu dises ma yastahilch. Ça c'est des paroles graves. Ça contredit sabr. Ou alors les gens ils disent pour eux. Par exemple, ils trouvent pas de travail, ils galèrent, ils disent ah pourquoi il m'arrive tout ça. Et Sahab al-Mukhaddirat, ils ont des belles voitures et tout. Ou alors ceux qui prient pas, je les vois, ils ont du travail. Ils ont des voitures, ils ont tout. Mais justement, ça, c'est un piège pour eux. Parce qu'Allah, il leur donne, mais quand il va les prendre, comme il dit Allah Azza wa Jal, Akhdha azizin muqtadir. Quand il va les prendre, il va bien les prendre. Alors que toi, justement, il te fait ça, c'est pour que tu patientes, c'est pour t'éprouver. Parce que t'es un croyant. Si t'avais pas l'Iman, Allah, il t'aurait pas traité comme ça. Il t'aurait trompé comme eux, ils ont voulu tromper Allah Azza wa Jal. وجواز يعني نأخذ من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة رضي الله عنها وأنه ليس من النياحة المنهي عنها يعني كما قلنا أن مثل هذه الأقوال اليسيرة يعني لا تعتبر نياحة لا تعتبر من أقوال الجاهلية donc il dit aussi qu'on retire du hadith comme on l'a dit qu'on peut entre guillemets التوجع c'est-à-dire exprimer sa douleur auprès de quelqu'un qui va mourir d'une façon équivalente à celle qu'a fait Fatima, c'est-à-dire avec des paroles simples. Et que ça ne fait pas partie de niyaha. Un niyaha, c'est tout ce que les gens ils faisaient avant l'islam sur le mort. Donc avant l'islam, les Arabes, dans la péninsule arabique, quand ils avaient un mort, ils pleuraient, ils criaient, shaqqul juyub. Un jayb, c'est ici, c'est-à-dire comme le col. Donc les femmes, elles tiraient le col. Où les hommes tiraient le col du qamis, ils s'arrachaient les vêtements, et aussi elles se griffaient, elles criaient. Donc tout ça, ça fait partie de Jahiliya. Mais malheureusement, ça fait partie des choses de Jahiliya qui sont revenues chez les musulmans. كذلك نأخذ من هذا الحديث أن الدنيا دار تعب ونصب والآخرة لا شيء فيها من هذا للمؤمن. Donc il dit, on retire aussi du hadith que cette vie d'ici-bas, c'est une vie de fatigue. Et la vie future, il n'y a pas de fatigue dedans pour les vrais croyants, pour les croyants, pour les gens de la foi. وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه حبه يعني محبوبه فزيد أسامة وحب النبي ابن حب النبي من أبوه زيد فزيد هو حب النبي يعني محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة كذلك قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب يعني أرسل الصحابة يقولون هذا الكلام لبنته زينب رضي الله عنها فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها يعني يحلف والله هي تحلف والله سيأتي تقسم على أنه سيأتيها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنه فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع يعني تتحرك سوف تخرج ففاضت عيناه يعني بكي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا يعني يتساءل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي أمام قضاء الله عز وجل فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية يعني في رواية من روايات الحديث في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه donc ici dans le hadith c'est Usama ibn Zayd radiallahu anhuma qui raconte que donc la fille du prophète Zainab radiallahu anha son bébé il était en train de mourir donc elle a envoyé quelqu'un un messager dire au prophète que le petit il est en train de mourir alors viens pour témoigner pour assister à ça. Donc il a envoyé quelqu'un
pour lui dire d'abord assalam.
Donc d'abord, le messager il dit salam de la part du prophète, après seulement il dit le message. Ça fait partie de la politesse. Et de lui dire inna lillahi ma akhadh, c'est-à-dire à Allah appartient ce qu'il prend. Wa lahu ma a'ta, et ce qu'il donne, c'est-à-dire ce qu'il prend et ce qu'il donne, tout ça appartient à Allah. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, et tout ce qui est auprès de lui et toute chose auprès de lui a un délai qui est compté. C'est-à-dire toute chose elle doit s'arrêter à un délai qu'Allah a déjà prescrit. Fal tasbir wa tahtasib. Donc qu'elle patiente et qu'elle espère la récompense. Donc là attention fil arabiya wa tasbir wa tahtasib ma'na man hiya fal tasbir. Walakin hal tastati an taqul li insan amamak, yani al mukhatab li tasbir فيما أعلمه أنا لا يجوز هذا في اللغة العربية. يعني إما تقول لنصبر يعني للمتكلم أو الغائب تقول ليصبر. أما المخاطب لا تستطيع أن تستعمل لام الأمر معه. لا تستطيع أن تقول لتصبر. إذن تقول له اصبر أو اصبري واحتسب أو واحتسبي. يعني المخاطب لا تستطيع أن تقول مثلا إذا كنت مع أناس تقول لنخرج بمعنى هذا أمر لي وله لنخرج. أو إنسان آخر تتكلم عنه تقول ليخرج بمعنى تأمر بأن يخرج أو بأن يخرج. ولكن الإنسان المخاطب أمامك لا تقول لتخرج. هذا فيما أعلمه لا يجوز في اللغة العربية, يعني استعمل لام الأمر مع المخاطب. يعني إذن لا تقول هذا الكلام هكذا. Donc ici en arabe il faut faire attention, parce qu'il lui a dit donc cette phrase, Allah il a ce qui prend, ce qui donne, chaque chose elle a un délai, donc qu'elle patiente et qu'elle espère, parce qu'il a parlé au sahabi qui va envoyer. Donc il lui a dit qu'elle patiente et qu'elle espère, c'est-à-dire dis-lui qu'elle patiente et qu'elle espère. Mais ça on appelle ça lam al-amr, parce qu'en arabe on peut, pour ordonner quelque chose on peut le faire soit avec l'impératif. Par exemple, je dis à la personne patiente, et on peut le faire aussi avec lam al-amr, c'est-à-dire un lam qu'on colle au verbe. Et le verbe il sera sous sa forme mudari', c'est-à-dire le présent. Mais ça, on peut le faire que quand on parle de nous, celui qui parle, ou de quelqu'un. Parce que les sujets en arabe, ils sont trois sortes. Tu as celui qui parle, celui à qui je parle, qui est en face de moi, et celui dont je parle. Donc ça, je peux le faire pour celui qui parle et celui dont je parle. Mais celui à qui je parle, je ne peux pas le faire. Pourquoi je vous dis ça? C'est important. Parce que si demain, quelqu'un, il y a une moussiba, vous ne lui dites pas « litasbir wal tahtasib » en face. Ça ne se dit pas. Il faut lui dire « isbir wa tahtasib » patiente et espère. Mais on ne peut pas employer l'âme et l'âme avec quelqu'un en face. Ça ne se dit pas. Ça se dit pour moi, pour nous. On peut dire par exemple « linasbir ». C'est comme si en français, je disais « patientons. » Et je peux le dire pour quelqu'un d'autre. Liasbir, c'est-à-dire qu'il patiente. En français aussi, ça existe. Il y a la même forme que l'âme al-amr avec Q-U apostrophe. Donc je dis qu'il patiente, c'est-à-dire c'est un ordre que la personne dont je parle, elle patiente. Mais, entre guillemets, en arabe, je ne peux pas dire que tu patientes. D'ailleurs, en français, je crois que non plus, on ne peut pas le dire. Que tu patientes. Liasbir, ça ne se dit pas. Il faut, donc on le dit isbir wahtasib. Donc, après, Zainab, radiallahu anha, elle a juré, au messager qui est venu, elle a juré qu'il viendrait. C'est-à-dire, elle a dit, Wallah, mon père, il va venir. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand son messager lui a répété ça, il s'est levé. Avec Sa'd ibn Ubada, Mu'adh ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, et Zayd ibn Thabit, et d'autres encore. Donc, il est parti, et on lui a donné le bébé, donc qui était en train de mourir. Donc, il l'a mis dans son... Al-Hijr, c'est-à-dire ici, il l'a assis ici comme ça et il s'est mis à pleurer. Donc Sa'd ibn Ubada, quand il a vu ça, il a dit ô messager d'Allah, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est quoi ces larmes? C'est-à-dire, il s'étonne, il veut savoir, il veut comprendre que le prophète il pleure alors que c'est quelque chose qui est destiné. Donc il lui a répondu, ça c'est une rahma, c'est-à-dire c'est une clémence, une miséricorde qu'Allah Ta'ala a mis dans le cœur de ses serviteurs. Et dans une autre version du hadith, il a dit qu'il a mis dans le cœur de certains, de qui il veut parmi ses serviteurs, et Allah ne fait miséricorde qu'à ceux qui font miséricorde, ar-ruhama.
C'est-à-dire, Allah fait miséricorde qu'à ceux qui font miséricorde. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il aime athar asma'ihi fi khalqihi. C'est-à-dire, Allah aime les traces de ses noms dans les êtres humains. Par exemple, Allah, il est Rahman et il aime ceux qui ont le Rahma. Il est Muhsin, c'est-à-dire bienfaisant, il aime ceux qui sont Muhsinin, ceux qui font le bien. Il est Sabir, il est patient, il aime les patients. Il est Shakur, c'est-à-dire il est reconnaissant envers ses créatures, il récompense, et il aime Shakirin, il aime les gens qui sont reconnaissants. Et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, adl, yuhibbu, ahl al-adl. Allah, il est juste et équitable, il aime bien les gens équitables. Et l'inverse aussi. Allah, laysa bidhallam, wa la yuhibbu al-zalimin. Allah, il n'est pas injuste et il n'aime pas les injustes. Donc Allah, il fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. فما نأخذه من هذا الحديث جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم وجواز القسم عليهم. يعني يجوز مثلا إذا كان قريبك يحتضر يعني قريب الموت فتدعو أهل الصلاح تدعوهم ليحضروا ويشهدوا موته. لماذا؟ لأنهم سوف يدعون له بالأدعية النبوية يدعون له بالرحمة بالمغفرة فهذا خير له وأهل الصلاح أقرب وأجدر أن يستجاب لهم وهكذا وربما يلقنونه لا إله إلا الله هذا لا يفعله جاهل أما أهل الصلاح طبعا سوف يفكرون يتذكرون أن يلقنوه الشهادة وغير ذلك من الفضل ويجوز أن تقسم عليهم يعني يقول والله ستأتي يجوز هذا. Donc il dit, ce qu'on retire du hadith premièrement, c'est qu'on a le droit de faire venir les gens de al-fadl, c'est-à-dire les gens de bien à celui qui va mourir. Par exemple, tu as un proche qui va mourir, qui est proche de mourir, donc tu appelles les gens de bien. Par exemple, les gens de la mosquée qui sont habitués à la mosquée, tu les invites pour qu'ils témoignent et ils assistent à sa mort. Pourquoi? Parce que ils vont profiter de leur baraka. Dans quel sens? C'est que, par exemple, ils vont faire dua pour lui. Peut-être aussi, ils vont lui rappeler avant qu'il meure de dire la ilaha illallah, etc. Donc, beaucoup de bien que les autres et les ignorants, ils ne feront pas. Et même, tu peux, comme c'est ici dans le hadith, tu peux jurer qu'ils vont venir. Donc, par exemple, la personne, elle hésite, tu dis, wallah, tu vas venir. Pour insister pour qu'ils viennent. جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة. Donc il dit aussi, on peut marcher vers le tahziya et aussi le fait de visiter un malade sans qu'on y soit, c'est-à-dire sans permission. Voilà. Parce que quand on regarde dans le hadith, Zainab, elle a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant il est venu avec plusieurs hommes. Donc tu n'as pas demandé la permission pour aller visiter un malade, tu vas le visiter tout simplement. Bien sûr, tu demandes la permission pour rentrer. Donc c'est le contraire de l'walima. À l'walima, tu vois que si tu es invité. استحباب إبرار المقسم. Donc le fait qu'il ait demandé ou préféré que quand quelqu'un il jure, par exemple, tu vas faire telle ou telle chose, de faire ce qui convient à sa parole, pour pas qu'entre guillemets il ait juré pour rien. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Comme ici, quand elle a juré qu'il allait venir, là au début il allait pas y aller, et quand elle a juré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il a été. استحباب أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو راض بقدر الله. Donc aussi il est recommandé quand quelqu'un il a un malheur et notamment le malheur de la mort de lui recommander la patience pour que quand la mort arrive, la mort de la personne, il l'accepte et il accepte le destin d'Allah Azza wa Jal. ويجوز تكرار الدعوة. Aussi on peut répéter plusieurs fois une invitation, insister dans une invitation. والترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة له. Et aussi ce hadith nous entraîne à avoir pitié et miséricorde pour la création d'Allah Azza wa Jal. تراحم العباد فيما بينهم سبب لرحمة الله بهم. Et aussi on retire du hadith que le fait que les gens se fassent clémence, miséricorde les uns envers les autres, c'est une cause pour qu'Allah Azzawajal leur fasse miséricorde. Donc si tu veux la miséricorde d'Allah, le moyen il est entre guillemets simple. Toi-même, sois miséricordieux envers les gens. C'est-à-dire, tu excuses facilement, tu aides, tu pardonnes, etc.
At-tarhib min qaswati al-qalbi wa jumud al-ayn.
Donc à l'inverse, le hadith nous met en garde contre le fait d'avoir un cœur dur et un œil sec, c'est-à-dire un œil qui ne pleure pas.
جواز البكاء من غير نوع.
Le hadith il montre aussi qu'on peut pleurer sans exagération. C'est pas niyaha. Donc on peut pleurer, c'est les pleurs qui sortent naturellement. Quand on commence à rajouter, là on rentre dans niyaha.
وجوب تقديم السلام على الكلام.
Pourquoi? Parce que ici, quand le prophète il a envoyé sallallahu alayhi wa sallam la personne, awalan aqri alayha as-salam. Thumma, donc il lui a dit d'abord dis-lui salam, ensuite dis-lui entre guillemets la doua ou la parole de consolation.
Donc ça et ça c'est aussi vrai au téléphone par exemple. Quand tu as quelqu'un au téléphone, d'abord assalamu alaikum avant de commencer à parler.
عيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا من مكارم الأخلاق ولذلك ينبغي على أهل الفضل أن لا يقطعوا الناس عن فضلهم. يعني المريض يعد يعني يزار وإن كان مفضول بمعنى ولو كان صغير السن أصغر منك سنا أو يعني درجته في المجتمع رديئة يعني ليس من أهل الغنى أو أهل الشرف ولكن يستحق أن يزار وأن يعاد وفي كل ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى بدون تفريق بين أهل الفضل وغيرهم من أهل المجتمع. Donc aussi au partir du hadith comme il dit le cheikh ici, c'est que on visite un malade même s'il est moins que toi, c'est-à-dire parce qu'ici le prophète صلى الله عليه وسلم il a visité quelqu'un. Pourtant le prophète c'est le meilleur des gens et c'est le plus noble des gens et il visite quand même les autres qui sont moins nobles que lui. Et même si c'est un petit, donc c'est-à-dire que ce soit dans l'âge, par exemple la personne est plus petite que toi, ou alors dans la société, dans le degré de société, par exemple elle a un degré bas dans la société, malgré ça, tout ça, il mérite qu'on les visite. Il n'y a pas de différence au niveau de la récompense. Et comme il dit le cheikh ici, les gens de religion, ahlul fadl, qui ont un mérite, les gens de la piété, ils ne doivent pas priver les autres de leurs biens. Par exemple, ils se visitent qu'entre eux, comme malheureusement c'est beaucoup le cas. Ils se visitent qu'entre eux, ou alors ils visitent que ceux qu'ils connaissent, ou alors que les gens qui sont haut placés. Par exemple, l'imam de la mosquée va être malade, tout le monde va aller le visiter, mais quand c'est la personne qui est toujours là-bas, au fond, au dernier rang, qui est malade, personne ne fait attention à lui. Ça, c'est un mot, ça, c'est pas. Que tu visites lui ou lui, ça reste une visite d'un malade. Auprès d'Allah, c'est la même récompense. Donc, au contraire, tu dois faire profiter du bien et de cette baraka qu'il y a dans les bonnes actions, tout le monde.
خلاص. إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.